Actu SF, les podcasts.
Bonjour, merci à vous d'être là. Donc on va aller se promener en opposition, je pense, à ce temps merveilleux dans des contrées plus froides, puisqu'on va partir en Russie avec Anna Starobinets, qui est aujourd'hui la représentante la plus connue, sans doute, en tout cas chez nous, de la littérature de genre et d'horreur, plus particulièrement, mais peut-être le terme est réducteur, elle nous dira ce qu'elle en pense, de la littérature russe. Trois livres d'elle, ce qui ne représente pas la totalité de son œuvre, ont été traduits en France. Son premier livre, donc un recueil de nouvelles qui s'appelait « Je suis la reine », puis deux romans, l'un qui s'appelle « Le vivant », qui est une dystopie autour des réseaux sociaux. Là aussi, elle nous expliquera un peu plus précisément ce qu'il en est. Et le dernier, Refuge, comment on dit, 3/9, qui est un livre très dense, assez complexe et assez fascinant, qui entrelace trois destins complexes. Anna Starobinets, bonjour et merci d'être là. Alors vous avez une quarantaine d'années, vous écrivez depuis assez longtemps, mais vous avez avant eu un parcours, c'est marrant, qui évoque plus le parcours des écrivains mythiques américains, fait de beaucoup de petits métiers, dont celui d'interprète dans une église. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu aussi cette période de votre vie ?
Да, добрый вечер всем, спасибо, что пригласили меня сюда, мне очень приятно здесь быть. Что касается моей биографии, нет, на самом деле в церкви я не работала, я работала в секте, причем переводчиком-синхронистом, вот как сейчас моя переводчица Инна со мной сидит, но только я там переводила то, что, ну, это были 90-е годы, в Россию нахлынуло очень много всяких странных людей, в том числе такая американская секта, и я переводила тот вот бред, который они несли прихожанам, и наоборот, с английского и обратно.
Bonjour et merci. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Et alors, je voulais dire, juste préciser que je n'avais pas travaillé dans une église, mais dans un secte. Je travaillais en tant qu'interprète en simultané, comme on interprète aujourd'hui avec moi. Et c'était dans les années 90, après l'ouverture de l'URSS, quand il y a toutes sortes de gens très étranges qui ont commencé à arriver en Russie. Et donc, c'était un secte américain et j'ai traduisé le délire qu'il avait.
Délire qu'elle ne partageait pas, visiblement. C'était purement un travail alimentaire.
А, нет, конечно, за деньги. Но я вообще еще училась в последнем классе школы. Вот мне очень нужны были собственные деньги. И я, да, ну, как бы я работала в ресторане. Официантка работала вот в секте, объявления еще расклеивала. Это все происходило в конце школы и на первом курсе университета.
Oui, enfin bien sûr, c'était pour de l'argent. À l'époque, j'étais en terminale et j'avais vraiment besoin d'argent. J'ai fait toutes sortes de petits boulots. J'ai travaillé au restaurant, je collais des petites annonces et tout ça, ça se produisait en terminale et en première année de l'université.
Но довольно быстро это все прекратилось, вот эта уже бредовая работа. И я, в принципе, долго работала журналистом, прежде чем начать писать фикшн. Вот, действительно долго, много лет. И на самом деле я долго еще совмещала, потом уже когда стала писать книги, и ушла из журналистики, когда поняла, что это больше невозможно делать технически, потому что те идеи, которые я хотела транслировать, уже не очень приветствовались в том журнале, где я работала, и в большинстве других.
Donc ça s'est terminé assez vite, tous ces travaux de délire. J'ai travaillé longtemps en tant que journaliste. J'ai été journaliste avant de commencer à écrire. Et puis pendant longtemps, j'alternais. J'ai réussi à marier ces deux métiers. Et je suis partie du journalisme au moment où j'ai compris que techniquement, ce n'était plus possible parce que les idées que j'aurais voulu transmettre n'étaient plus les bienvenues dans les revues où je travaillais et dans la majorité d'autres médias.
Alors justement, ça, le journalisme, comment y est-elle arrivée et dans quel type de journaux avez-vous travaillé et à faire quoi ?
Я не думаю, что названия будут о чем-то говорить. Довольно, я очень много перебрала разных изданий, газета «Аргументы и факты», «Время новостей», «Газета.ру», журнал «Эксперт», журнал «Русский репортер», журнал «Афиша», журнал «Сноб». Много, ну, еще там штук пять. Попала я туда просто, ну, потому что я, в принципе, неплохо писала всегда. Вот я сначала писала про кино и про книги, а потом постепенно даже, в общем, сделала некоторую карьеру и в какой-то момент была редактором, ну, то есть начальником отдела культуры в журнале «Эксперт». Это был самый главный экономический журнал в стране, и я там полностью отвечала за все, что касается культурных тем.
Alors, je ne crois pas que les noms des médias russes vous disent quelque chose, et j'en ai changé beaucoup. J'ai travaillé dans les journaux tels que Argument et Fait, tels que Gazeta.ru, tels que Le Temps des Nouvelles, mais aussi dans les magazines, dans les revues assez connues, telles que par exemple la revue Expert, qui est la première revue économique de Russie, et d'autres aussi, tels que Snob ou Affiche. Comment je me suis retrouvée au journalisme? Sans doute parce que j'écrivais pas trop mal. D'abord, j'écrivais sur les livres et sur le cinéma. Mais à la suite, j'ai réussi à faire une sorte de carrière dans le journalisme. J'ai été la responsable du département culture du magazine, de la revue Expert. C'est-à-dire que je gérais tout ce qui concernait la culture dans cette revue.
Alors on voit beaucoup ici, mais c'est peut-être une idée qui est fausse et qui est la Russie aujourd'hui comme un pays assez autoritaire. Est-ce que ça se ressentait dans les journaux pour lesquels elle travaillait? Est-ce qu'elle était très libre d'écrire ce qu'elle voulait? Et quand elle dit qu'elle en est partie parce que ses idées ne collaient plus, de quoi veut-elle parler plus précisément?
В какой-то момент стало невозможно никакая критика того, что касалось, ну, того, что было связано с Россией. Ну, то есть, грубо говоря, я в какой-то момент мне надоело заниматься культурой, и я ушла в репортажи. То есть я была репортером, я ездила по всей стране, писала на разные темы. Но в какой-то момент стало понятно, что писать нужно только как бы о хорошем, вот, о том, как все прекрасно, как все процветает и налаживается, становится все более замечательным. Когда я писала о чем-то, что мне не нравилось, если я там видела, что какой-то регион бедный, или там я оказалась в какой-то момент в деревне, в которой просто это было почти фантастика, потому что там жили 10 человек в этой деревне, они все были синего цвета от некачественной водки, которую они употребляли, и мне рассказывали, что они ждут НЛО. Написать про такое было невозможно, потому что это значит, что, ну, как-то страна не так уж и процветает. Кроме того, в какой-то момент прекратились абсолютно все репортажи из других стран. Мне было сказано, что российского читателя не интересует ничего, кроме России, а в России интересует, как все налаживается.
À un moment, il est devenu absolument impossible de critiquer tout ce qui concernait la Russie. Moi, j'en étais lasse d'écrire des choses sur les livres et les cinémas, et j'ai voulu faire des reportages. Et du coup, je suis partie en tant que reporter dans différentes régions de Russie. Et j'ai vite compris que ce n'était pas la peine d'écrire ce qui n'allait pas, qu'il fallait uniquement écrire de bonnes choses, il fallait montrer comment les choses commencent à s'arranger en Russie, comment les gens commencent à vivre bien. Et ici, je voyais donc des choses qui ne me plaisaient pas, des régions qui allaient mal, par exemple. J'ai été envoyée un jour dans un village qui est quasiment un village fantastique. Il y vivait 10 personnes, et ces 10 personnes avaient toutes la peau bleue à cause de la vodka de mauvaise qualité qu'ils n'arrêtaient pas de boire, et ils me disaient qu'ils attendaient un ovni. Et donc, quand j'ai voulu l'écrire, on m'a dit que non, enfin que ce n'était pas possible. Et à un moment, il y a eu aussi, on a cessé tous les reportages d'autres pays. On a dit que le lecteur russe ne s'intéressait qu'à la Russie, et qu'en Russie, il ne s'intéressait qu'à savoir à ce qui va bien.
On a justement en Russie, ici, une seule journaliste russe connue et qui est devenue un peu une icône, qui est Anna Politkovskaya. Est-ce qu'elle a le même statut comme ça de représentante de la liberté écrasée qu'elle a en France, ou est-ce que c'est plus complexe?
Да, конечно, она именно так и воспринимается, и ну, не как даже икона попранной свободы слова, как жертва, ну, в общем-то, как жертва своих слов. Вот. А Анна Политковская работала в «Новой газете», с которой я тоже немного сотрудничала, и она работала вместе, например, с моим, к сожалению, покойным мужем, вот, он очень хорошо ее знал, и потом случилось то, что случилось. Да, в общем, конечно, так она и воспринимается, хотя с тех пор, в принципе, в России произошли разные другие вещи. Вот, там у нас сейчас есть так называемое театральное дело. Это, конечно, не журналисты, это там театральные режиссеры, но все равно это люди, которые по нелепому обвинению вот прямо сейчас в наши дни лишены свободы. Это люди, которые делали лучший театр в стране, но придерживались позиции, которая не совсем совпадала с позицией государства.
Effectivement, c'est comme ça aussi qu'elle est perçue. Elle est même plus perçue en tant que victime plutôt qu'une icône, victime de ses propres paroles. Elle travaillait pour la Novaya Gazeta, où j'ai un peu travaillé moi-même, et donc feu mon mari la connaissait bien. Puis il a été tué, et effectivement, donc c'est bien l'image que vous donnez. Donc c'est comme ça qu'elle est perçue, même si depuis il y a eu pas mal de mauvaises choses qui se sont produites. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'affaire du théâtre, on peut dire. Ce sont des gens du théâtre. Kirill Serebrennikov, donc des gens du théâtre qui se sont retrouvés privés de liberté pour des accusations tout à fait farfelues. C'était des gens qui avaient le meilleur théâtre du pays, mais dont les opinions ne correspondaient pas tout à fait avec les opinions du gouvernement.
Est-ce que c'est un regret pour vous d'avoir abandonné le journalisme? Est-ce que vous aimeriez y revenir si le contexte l'autorisait?
Нет, я никогда не жалела об этом. Я после журналистики переключилась на... Ну, то есть поскольку в России невозможно зарабатывать литературой, это абсолютный нонсенс, то источник моих доходов сейчас — это сценарий. Я пишу сценарий для кино и для телевидения. И, в общем, мне это на данном этапе гораздо более интересно, чем журналистика. Поэтому если бы я в нее... Ну, если бы мы предположили бы, что изменилась ситуация в стране, и туда можно было бы вернуться, я бы в любом случае на этом этапе своей жизни сейчас в журналистику бы не вернулась.
Non, je ne regrette pas le journalisme. Depuis, comme il est impossible de gagner de l'argent avec son écriture en Russie, avec ses livres, donc je gagne mon pain avec les scénarios que j'écris pour le cinéma et la télé. Et je trouve que ce travail me plaît beaucoup plus que me plaisait le journalisme. Et même si aujourd'hui, tout d'un coup, le contexte changeait, que la Russie devenait un pays libre, que c'était qu'il était possible d'y retravailler, aujourd'hui, à cette étape de ma vie, je ne serais pas retournée au journalisme.
Alors, comment est-ce que l'écriture de fiction s'est articulée avec le journalisme? C'était deux choses totalement différentes. Vous faisiez l'un en même temps que l'autre, ou c'est quand vous avez arrêté que vous avez décidé d'écrire?
Нет, я довольно долгое время, несколько лет это совмещала, мне это не мешало абсолютно. Одно, ну, это совершенно разные виды деятельности. Единственное, что журналист, ну, то есть мой опыт в журналистике, безусловно, помог мне в дальнейшем в моих уже как бы книжных делах тем, что журналистика, особенно когда ты делаешь репортажи, это учит тебя очень внимательно наблюдать за людьми, причем постоянно за ними наблюдать. Это в какой-то момент становится таким инстинктом. И, может быть, ты хотел бы расслабиться, там, я не знаю, выпить с друзьями, ты все равно пристально за всеми наблюдаешь, потому что это тебе может понадобиться. Для литературы это очень важно. Ты из этого потом можешь, грубо говоря, вот из жизни украсть какую-то интересную деталь или какого-то интересного человека, там, ну, слегка видоизменив, да, для своих писательских уже нужд. То есть эта наблюдательность, она мне очень помогает.
J'ai réussi à combiner le journalisme et l'écriture de fiction pendant plusieurs années. Ce sont donc des activités tout à fait différentes, mais je réussissais à les marier. Mais là où le journalisme m'a vraiment aidé, et surtout les reportages que j'avais faits, c'est dans l'élaboration d'un sens d'observation qui aide beaucoup à écrire des livres, parce que quand on est reporter, on apprend à observer très attentivement les gens autour, et même quand on veut ne plus le faire, quand on veut juste aller boire un verre avec des amis, on continue cette observation, on continue à scruter les gens autour, parce que ça peut vous donner un détail intéressant pour votre texte, ça peut vous donner un personnage intéressant que vous pouvez mettre dans un livre, donc en le changeant un peu. Et donc c'est le sens d'observation qui m'a vraiment servi.
Est-ce qu'il y avait une espèce de frustration aussi dans l'écriture journalistique à coller à la réalité que la fiction lui a permis de transcender?
Фрустрация в области журналистики была ли у меня или в области писательства?
Vous parlez de la frustration dans le sens dans le journalisme,
oui, ou dans le journalisme de devoir coller à la réalité et du coup d'être limité par ce qu'on doit décrire et pas forcément imaginer. Du moins les bons journalistes.
Я поняла. Нет, у меня фрустрация возникала ровно по противоположной причине, потому что иногда реальность, она была настолько невероятная, тут та реальность, которую я видела, и я общалась настолько безумными персонажами, что мне казалось, что вот я сейчас, когда все это напишу в репортаже, мне не поверят и скажут: а, ну понятно, Анна Старобинец, она же пишет фантастику и хоррор, и она это все сочинила. А я при этом абсолютно человек, как бы я педантичный и честно, как бы в журналистике писала только правду, только то, что я видела. Но мне очень везет, на самом деле, и по жизни, в журналистике на какие-то совершенно невероятные ситуации, вот как эта деревня с НЛО, там, или я в какой-то момент писала репортаж про человека, который в России такой подвижник, вот, он занимается, ну, есть одно место в России, где есть останки динозавров, вот он как бы выкапывает самостоятельно эти кости динозавров, и я к нему пришла брать интервью, и обнаружила, что это человек, буквально, в буквальном смысле, он живет в музее, где динозавры, где вот стоят вот эти скелеты динозавров, и он спит на матрасике под ногами вот этого, ну, как бы под динозавром. Вот. И это была чистая правда, выглядела как полная фантастика, и, в общем, действительно, я получала комментарии к своим статьям иногда, что мы в это все не верим, это все фейк, это вот ее фантастические бредни.
Non, ma frustration était justement à cause du contraire. C'est que parfois, on m'envoyait dans des endroits où je faisais des reportages sur les personnages qui étaient tout à fait invraisemblables. C'est-à-dire que c'était la réalité que je décrivais. J'y collais très bien, de façon très pédantique, parce que je suis très honnête avec le lecteur. Mais à chaque fois que je finissais un tel reportage, je croyais que les gens ne me croiraient pas. Et donc qu'ils allaient dire que de toute façon c'est Star Robinette, bien sûr qu'elle invente, que la chose est inventée de toutes pièces, par exemple avec ce village d'OVNI, ou encore une fois j'ai fait un reportage sur une personne en Russie qui s'occupe de la de chercher les os des dinosaures. Et quand je suis allée le voir, j'ai appris qu'il vivait dans le musée des dinosaures et qu'il dormait sur un matelas qui était posé sous les pieds d'un squelette de dinosaure. Et c'était vrai, mais effectivement, quand j'ai écrit ce reportage, j'ai eu des commentaires qui disaient que c'est du n'importe quoi, c'est du fake, on ne vous croit pas. Vous êtes Anastas Rubinets, vous inventez.
Comment est né, alors, en 2005, donc, votre premier recueil de nouvelles sort, donc, qui s'appelle en français « Je suis la reine », dont je crois la traduction littérale du titre original est plus proche, à mon avis, de ce qu'est le livre. Ça s'appelait « Histoire inquiétante ». Comment est-ce qu'il est né, ce livre, et pourquoi déjà le choix de la nouvelle ?
Да, насчет названия это правда, то есть то, что вот называется «Je suis la reine», это название, которое выбрал французский издатель, вот, у него есть некоторый смысл, да, но на самом деле книжка действительно называлась «Переходный возраст», и это важно, и по-английски называется «awkward age», что даже еще лучше, вот, и для меня это было важно, потому что один из персонажей заглавной повести книги, как раз находясь, вот, собственно, в переходном возрасте, а это же возраст трансформации и метаморфозы, который происходит, по сути, с человеком, он при этом, на самом деле, параллельно превращался в реального монстра, но его мать, она воспринимала это все как обычный, понятно, пубертат, переходный возраст.
Alors, effectivement, donc, vous avez raison pour le titre. En français, enfin, le titre français, Je suis la reine, il avait été choisi par l'éditeur français. Dans l'original, le livre s'appelle L'âge de transition. Et en anglais, ça s'appelle encore mieux Awkward Age, l'âge maladroit. C'est-à-dire que ça parle donc effectivement de cette période adolescente où on commence à vivre les transformations. Et le héros de la nouvelle principale est lui justement cette transformation d'un enfant à un adulte, adolescent, mais en même temps il se transforme réellement en monstre. Sauf que sa mère, elle voit cette transformation en monstre, mais pour elle c'est tout à fait normal, c'est l'âge de puberté, donc c'est voilà, elle le perçoit comme ça.
Вот, но придумала я ее, то есть на самом деле я как раз была вот журналистом, я родила свою первую дочь. И я испугалась, что на этом моя жизнь абсолютно закончится, я больше ничего никогда нового не сделаю, не создам. Испугалась и вспомнила, что в детстве я хотела стать писателем. И вот как бы под действием этого страшного испуга, что моя жизнь никогда уже не будет более интересной, чем сейчас, я очень быстро написала эту книжку, я написала ее за 3 месяца. Вот, и да, это сборник фантастических рассказов, но на самом деле я, в общем, как бы упорно не считаю себя прям-таки писателем-фантастом, а считаю, что фантастика — это для меня просто способ, это не конечная цель, а способ как бы говорить о каких-то реальных вещах, которые происходят с людьми.
Et donc, j'ai écrit cette nouvelle, ce recueil, au moment où je venais d'avoir ma fille, et j'ai eu très peur, car je croyais que jamais plus je ne ferai rien d'intéressant, que je ne vais m'occuper que de ma fille et de mon travail. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenue que pendant mon enfance, je voulais devenir écrivain. Et c'est sous l'effet de cette peur, la peur que je ne puisse plus rien créer d'intéressant dans ma vie, que je l'ai écrit très rapidement. Je l'ai écrit en 3 mois, ce recueil de nouvelles fantastiques, même si je continue à affirmer que je ne suis pas un écrivain du fantastique, un écrivain de science-fiction, que j'écris des choses tout à fait réelles et que la fantastique n'est que le moyen d'expression qui me permet de démontrer certaines choses.
Alors, pardon, je vous repose la question. Pourquoi la nouvelle ? Pourquoi cette forme courte ?
Мне казалось, на самом деле, я, в принципе, очень я люблю короткую форму. Мне кажется, что это просто идеальное литературное произведение, потому что короткая дистанция, она на самом деле сложнее длинной. Когда ты пишешь роман, я потом писала несколько романов, да, у тебя есть очень на длинной дистанции ты можешь там пописал, отдохнул, у тебя есть очень много вариантов, очень много линий, ты можешь с ними играть. У тебя на самом деле куча фор, ну, то есть ты получаешь фору от этой длинной дистанции. Когда дистанция короткая, а твоя задача точно такая же. Ты должен рассказать историю. И в этой истории должен быть и сюжет, и смысл, и некоторый еще такой дополнительный смысл. А при этом у тебя на это есть буквально несколько страниц. И рассказ — это как зародыш романа, это свернутый, как вот бывает такой китайский чай. Это такая маленькая штучка, ты его кипятком заливаешь, он превращается в большой цветок. Вот рассказ — это такой маленький китайский чай, и очень трудно делать именно это. Я в детстве, когда я читала рассказы Брэдбери, я всегда восхищалась именно тем, что каждый его рассказ на самом деле там заложен сюжет для романа или даже для сериала, для чего угодно.
Alors, moi j'aime beaucoup la forme courte. Je crois que c'est la forme littéraire idéale. Et au fait, la distance courte, elle est beaucoup plus difficile à parcourir que la distance longue. Je peux comparer parce que j'ai écrit des romans. Et je sais que quand j'écrivais le roman, j'avais donc beaucoup d'espace pour le manœuvre. Je pouvais aller me reposer si j'étais fatiguée. J'avais plusieurs lignes, plusieurs personnages avec lesquels je pouvais jouer. Et donc dans la nouvelle, vous êtes beaucoup plus restreint, mais vous avez la même tâche, c'est-à-dire que vous devez émettre le sujet, vous devez émettre l'intrigue, vous devez émettre le sens et peut-être un sens de plus, un sens secondaire, on peut dire. Et vous n'avez que quelques pages pour le faire. Et c'est pour ça que quand j'étais petite, j'admirais les nouvelles de Bradbury, parce que lui, effectivement, il émettait des romans, des séries toutes prêtes. Et pour moi, la nouvelle, on peut dire, c'est le roman concentré à l'image des thés chinois. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une sorte de petite fleur, de toute petite fleur que vous mettez dans l'eau et qui commence à devenir de plus en plus grande. Et c'est ça, le récit, c'est cette petite fleur concentrée que si vous la mettez dans l'eau, elle devient un roman.
Vous êtes revenu en 2008 à la nouvelle, après un roman, avec un recueil qui n'est pas traduit en France, que là, sur les papiers que j'ai, on a traduit par la recrudescence du froid. Vous pouvez nous en parler de celui-là ?
Но у меня на самом деле есть не только резкое похолодание назывался сборник, и еще один из буквально моих там последних книг, который я написала, это тоже сборник рассказов, он называется «Икаровая железа». Вот, что касается резкого похолодания, это мне очень жаль действительно, что он не переведен. Ну, это тоже короткие повести и рассказы. В заглавной повести речь идет от лица персонажа, мы не понимаем, кто. Мы не понимаем, кто нам рассказывает историю. Это история некой семьи, которая длится фактически 100 лет. А человек, персонаж, от лица которого идет повествование, он, судя по тому, как он рассказывает, вообще никогда не выходил из квартиры на протяжении многих десятков лет.
Alors, je n'ai pas seulement ce recueil-là, j'ai aussi, parmi mes dernières œuvres, j'ai aussi un recueil de nouvelles qui s'appelle Le gland d'Icare. Et je regrette beaucoup que la recrudescence du froid n'ait été traduite en français. La nouvelle principale du recueil, elle est racontée par un personnage que nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas qui la raconte. Il s'agit d'une famille qui vit sur une centaine d'années. Et selon le personnage qui nous raconte tout ça, on commence à comprendre qu'il n'a pas quitté son appartement pendant des dizaines d'années.
И этот персонаж описывает самые удивительные вещи. Он описывает, как там происходило так называемое уплотнение после победы, революции, как в эту квартиру подселили каких-то чужих людей. А он вроде бы член семьи, но тех, кто изначально там жил. Потом он рассказывает, как репрессировали там одного из членов семьи, как кто-то уходил на войну, еще что-то. И пока мы не доходим до наших дней, где мы понимаем, что у него какие-то очень сложные отношения с девушкой, которая хочет эту квартиру теперь сдать. И в итоге она ее сдает. А девушка его все время игнорирует. В общем, в какой-то момент мы понимаем, что этот персонаж — это домовой, то есть дух дома, и в названии есть намек на это, называется рассказ «Домосед». И, в общем, мне было очень интересно поиграть так, с таким форматом повествования, когда мы не понимаем вообще, кто нам рассказывает, но при этом начинаем ему страшно сочувствовать, там, как-то болеть вот за него. И только в конце узнаем, что это... Собственно, там только реалистичные события описаны, но в конце мы узнаем, что рассказывает нам об этом сказочный персонаж.
Et donc, ce personnage, il nous raconte des choses, une histoire qui commence après la Révolution, quand il y a eu ce qu'on appelle la densification des appartements, c'est-à-dire quand on mettait les gens de la rue, on les mettait à vivre dans les appartements qui appartenaient à quelqu'un. Et donc, il raconte cela, il raconte les repressions de l'un des membres de famille, il raconte la guerre, comme ça, il remonte jusqu'à nos jours. On voit que c'est un membre de famille, mais le membre de la famille qui vivait encore donc au moment de la Révolution. Et de nos jours, il a des relations assez compliquées avec la jeune fille qui appartient aussi à la famille et qui veut louer cet appartement. Il finit par le louer. Et c'est là que nous apprenons que le récit a été fait par l'esprit de la maison. Et en fait, c'est à ça. Enfin, j'avais voulu pendant longtemps jouer avec cette idée du personnage dont nous ignorons en fait qui il est, mais à qui nous compatissons quand même, que nous suivons avec beaucoup de sentiments.
Dans Je suis la reine, comme dans ce que vous nous racontez là, il y a un de vos thèmes majeurs. Enfin, il y en a plusieurs, mais qui est celui de l'enfance. Qu'est-ce que ça représente pour vous l'enfant et pourquoi? Vous écrivez pour les enfants, mais vous écrivez aussi sur les enfants. Pourquoi autant de vos héros sont des enfants ?
Мне кажется, это действительно очень тонко, кстати, вы подметили. Мне кажется, дети — это такие существа, которые находятся в каких-то двух мирах одновременно у них. С возрастом что-то происходит с человеком, и у него куда-то пропадает фантазия. И бывают иногда исключения, и я считаю себя одним из таких. Ну, то есть у меня, как я сохранила, такой достаточно масштабный аппарат для фантазирования. Дети, они сначала вообще не разделяют. Вот у меня двое детей, они, пока они дети, не разделяют мистическое и реальное. Для них возможны самые удивительные вещи, там, привидения, какие-то существа, монстры в шкафу. Они у них смешиваются с реальностью. И мне кажется, что это двоемирие, в котором живет любой настоящий ребенок, это очень интересная и благодатная почва, и это, и оттуда можно взять кучу очень хороших, интересных образов, а при этом каждый читатель, даже взрослый, был ребенком, поэтому, когда я об этом пишу, он все-таки, даже если он уже больше не такой, он вспоминает этот период и может понять то, о чем я пишу.
C'est vraiment une très fine remarque, merci. Moi, je crois que un enfant, il vit entre deux mondes. Quand on devient adulte, on perd, je ne sais pas de quelle manière, mais on perd l'imagination. Il y a donc de rares adultes qui grandissent sans la perdre. Je crois que donc je suis parmi eux. J'ai un appareil d'imaginaire assez complexe qui me reste. Mais les enfants, quand ils sont enfants, ils ne font pas la différence entre le mystique et le réel. Moi, j'en ai deux et donc je m'aperçois qu'ils ne fassent absolument pas cette différence. Cette possibilité, cette capacité de vivre dans deux mondes à la fois, je crois que c'est un sol très intéressant, très fertile pour la littérature. On peut y trouver des images fascinantes. Et en plus, chaque adulte avait été enfant, et même s'il ne l'est plus, quand il lit ce que j'écris, il se souvient comment c'était.
Alors les enfants, justement, ne sont pas condamnés à le rester, ils deviennent des adultes. Et un autre de vos thèmes très très fort, c'est celui de la transformation. Donc « Je suis la reine » ne parle quasiment que de ça, de transformations diverses. Dans Refuge 3-9, il y a une des héroïnes qui est photographe et qui se transforme en clochard. Il y en a un autre qui est joueur de poker, enfin de cartes, et qui se transforme en araignée. Enfin, pourquoi cette obsession de la transformation au-delà de tout ce que la puberté peut avoir de fort et de symbolique ?
Да, тема метаморфозы и трансформации, Для меня действительно очень важно. Мне это кажется чем-то самым, ну, на самом деле, самым страшным, что может произойти. Меня гораздо менее пугают там какие-то зеленые клешни, которые могут вылезти из человека, или убийство, там, жестокое убийство, я не знаю, топором с морем крови. Самое страшное же, на самом деле, это некое превращение, которое может случиться с кем угодно, с близким человеком, да, он переходный возраст, это же, в общем-то, очень страшная штука. Вот ты, например, родитель, да, твой ребенок, он только что был твой ручной хороший малыш, а тут он меняется, он начинает от тебя как-то отстраняться, он начинает тебя ненавидеть, он начинает тебе не доверять, и как будто, ну и ты тоже ему взаимно начинаешь не доверять, и он на твоих глазах превращается в другое существо. Вот. Или там любимый человек, да, когда он там в какой-то момент говорит: ну, дорогая, все, я ухожу. Он же для тебя фактически вервольфом каким-то становится. Ты совершенно этого не ждал. Это трансформация. Ну и плюс внутри себя ты можешь вдруг обнаружить какого-то, ну, что-то настолько демоническое, чего ты сам от себя не ждал, что это тоже очень пугающе. Я не знаю, что может быть, ну, кроме смерти, страшнее, чем внезапное превращение близкого человека или самого себя во что-то другое.
Effectivement, donc je suis, enfin, c'est ce thème de métamorphose, de transformation, ce thème me poursuit parce que je crois que c'est la chose la plus effrayante qui soit. C'est-à-dire, je n'ai pas autant peur, par exemple, des histoires avec des meurtres à la hache, enfin, avec beaucoup de sang, etc. J'ai beaucoup plus peur des transformations que nous pouvons vivre ou que peuvent vivre nos proches. Par exemple, l'âge de transition, c'est quand même une chose très, très effrayable quand l'enfant devient adolescent. Il y a quelques instants, c'était encore ton enfant, il était à toi, il était tout mignon, tout gentil, et là, il commence à grandir, il ne te fait plus confiance, il s'écarte, il commence à te haïr, et toi, en même temps, tu ne lui fais pas confiance non plus, et donc, c'est tout à fait, c'est une autre personne qui apparaît à la place de l'enfant. Ou encore, par exemple, le mari qui s'en va, qui dit, la personne que tu aimes, et qui dit, bon, ça va, ça suffit, voilà, je pars. Pour vous, il devient une sorte de loup-garou tout de suite. Ou encore des transformations à l'intérieur de nous, quand nous voyons grandir, nous voyons sortir des choses, des démons intérieurs que nous ne savions pas, qu'ils étaient à l'intérieur de nous. Et je crois que peu de choses, sauf la mort, peuvent être aussi effrayantes que la transformation de vous-même ou de vos proches.
Alors les transformations, donc on en retrouve dans votre premier roman, traduit en français, Refuge 3-9. Qu'est-ce qui vous a fait passer au roman ?
А, ну, мне просто издатель российский сказал, что рассказы никому не интересны, их не покупают. Так что, если вы хотите быть писателем, пишите роман.
Tout simplement, mon éditeur russe m'a dit que les nouvelles, ça n'intéressait personne, que ça ne s'achète pas, et donc si je voulais vraiment devenir écrivain, il fallait écrire des romans.
Et c'est plus facile?
Да, мне проще написать роман. Ну, это занимает больше времени, но технически написать роман легче, чем сборник рассказов. Поэтому мне особенно обидно. А теперь мне то же самое говорят и западные издатели, что вот рассказы никому не нужны, давайте роман пишите. И это печально очень.
Oui, enfin, techniquement, ça prend plus de temps, mais c'est aussi plus simple que d'écrire une nouvelle. Et c'est pour ça que je suis très triste quand les éditeurs étrangers commencent à me dire la même chose, que les nouvelles, ça n'intéresse personne et qu'il faut écrire les romans. Donc, ça me chagrine beaucoup.
Il y a une construction très étonnante dans Refuge 3-9. On a l'impression d'une espèce de structure, je ne sais pas comment dire, qui tourne en rond, où on finit par se perdre beaucoup, où trois histoires se mêlent. Comment est-ce que vous avez construit tout ça ? Et est-ce que l'idée de dérouter le lecteur est pour vous un obstacle ou au contraire, c'est à lui de participer aussi à l'acte créatif et sa lecture doit être un travail qui ne sera pas forcément le même pour tous ?
Читатель может там потеряться, или как раз ваша цель в том, чтобы
он тоже потерялся, как и герой, и сам работал каким-то образом для того, чтобы выбраться из этой конструкции.
У меня нет такого, я никогда не делаю скидок читателю и не думаю, что вот он может быть глупее меня и чего-нибудь не поймет.
Je ne fais jamais de concession au lecteur et je ne pense jamais qu'il est moins intelligent que moi et donc serait capable de ne pas comprendre quelque chose.
Этот роман действительно достаточно, у него сложная структура, ну понятно, что я люблю сложные структуры, поэтому я так сделала, но в этой структуре есть, она не ради сложности, в ней есть своя логика, то есть потому что у меня есть два мира, да, один это мир, я не знаю, переводится ли это на французский, который называется явь, то есть реальность, это такие это термины, ну, из фольклора славянского, а другой — это навь, то есть это мир сказки и в каком-то смысле мир мертвых. И эти явь и навь соединены, между ними речка, которая называется смородина, и на самом деле, ну, везде есть речка в любой мифологии такая, между жизнью и смертью, вот, и мостик такой специальный, да, и как бы, ну,
alors, là, effectivement, la structure est complexe, mais ce n'est pas parce que voilà, j'aime les structures complexes et j'ai voulu écrire une structure complexe. C'est qu'il y a deux mondes dans ce roman. Il y a, donc, je ne sais pas si c'est traduisible en français, ce sont des termes du folklore slave pour désigner l'enterme, enfin, termes qui s'utilisent pour désigner la réalité, donc il y a le monde réel. Et de l'autre côté, il y a le monde des contes, mais qui est en même temps le monde des morts, donc on peut dire en français l'au-delà peut-être. Et donc l'au-delà et l'au-de-ça sont, il y a une rivière qui s'appelle Cassis, qui passe entre les deux. En fait, dans toutes les mythologies, il y a une rivière qui passe entre le monde des vivants et le monde des morts. Et donc, il y a un pont à travers cette rivière.
Вот, ну и когда я уже сделала такую как бы карту этого романа, да, что есть мир мертвых, мир живых, мир сказки, мир реальности, естественно, у меня возникло там вокруг каждого из этих миров своя мифология и своя история, то есть как бы одно повествование, оно происходит вот в сказочном мире мертвых, другое в реальном мире живых, и третья линия — это линия из прошлого, которая объясняет, почему главная героиня, вот та самая, которая превратилась из журналистки во французского, кстати, клошара, почему она вынуждена совершать очень страшное путешествие из мира реальности в мир вот этих мертвых, а она это делает, потому что она это делает, потому что у нее в прошлом есть большой грех, она предала своего ребенка, который попал в аварию, впал в кому. А на самом деле не то, что впал в кому, а вот попал в этот мир сказочных персонажей. И ее задача совершить путешествие из нашего мира в мир вот этой сказки и смерти, чтобы спасти своего ребенка и искупить грехи. Поэтому у меня такие три, как бы получилось три мира фактически.
Et donc, quand j'ai fait la carte de ce monde, j'ai vu que j'avais deux mondes différents. Et donc, chaque monde est entouré de sa propre mythologie, de sa propre histoire, donc ce qui crée deux lignes de narration séparées. Et il y avait la troisième ligne de narration, c'est la ligne qui menait au passé, pour qu'on comprenne pourquoi donc, cette photographe, cette journaliste qui s'est transformée en clochard français, pourquoi elle doit s'aventurer vers ce monde de mort, faire ce voyage effrayant. C'est parce que justement dans son passé, elle avait un grand péché, elle avait trahi son fils, le fils qui est devenu victime d'un accident dans un parc d'attractions et qui se retrouvait dans le coma qui est en vérité le voyage justement dans cet au-delà avec ses personnages effrayants. Et donc voilà cette troisième ligne donc, qui explique l'histoire et c'est à cause de ça que la structure est devenue si difficile.
Vous parlez du folklore russe, il est très présent aussi dans vos livres. Est-ce qu'il a baigné votre enfance et quel est le rapport que vous avez avec lui? Est-ce que pour vous, c'est aussi quelque chose que vous vous appropriez, qui est une manière de raconter le réel de façon détournée?
Да, у меня с ним тяжелые отношения с детства, потому что на самом деле, ну, всем детям в России читают вот эти самые русские сказки, в которых фигурируют Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Колобок, это такой круглый хлеб, который убежал от бабушки и дедушки, катится и убегает последовательно там от лисички, от зайчика, от волка.
Alors, j'ai des relations assez dures avec le folklore russe parce qu'effectivement, comme à tous les enfants russes dans leur enfance, on m'a lu des livres sur la Baba Yaga, sur le cocher immortel et aussi sur Kolobok. C'est un pain rond, en fait, de l'histoire. C'est comment ils se sauvent de la grand-mère et du grand-père que l'on fait. Et ensuite, ils voyagent dans la forêt et ils arrivent à s'enfuir. Enfin, ils se sauvent du loup, du renard. Enfin, du loup, du lapin, enfin d'autres, voilà. C'est la galette, voilà, l'histoire de la galette.
И в общем, все дети совершенно спокойны и даже обычно скучают, как бы слушая эти сказки. Вот. И они такие вроде бы простенькие и совершенно безобидные, но меня они страшно пугали всегда с детства, потому что я начинала думать над деталями всегда. То есть вот даже колобок, хотя ничего безобиднее, как мне говорят друзья, нельзя придумать, даже колобок в меня вселял невероятный ужас, потому что я думала... Он же, вот это голова, да, она, у нее там рот, нос, глаза, вот он катится по земле, ему, наверное, земля забивается в глаза, как же он смотрит на эту лису, или в рот ему попадает, а как он, как, ну, то есть меня волновали какие-то физиологические вопросы, связанные даже с колобком, и казалось, что это само по себе то, что он катится, вот эта голова, пачкаясь о землю, попадая в лужи, вот, что это уже какая-то кошмарная абсолютная история, а то, что в конце его съела лиса, это как раз полная ерунда.
Et donc tous les enfants percevaient ces contes normalement, mais moi j'ai commencé tout de suite, donc ces contes m'effrayaient parce que je commençais à penser aux détails, même l'histoire de la galette, donc apparemment c'est très innocent comme histoire, il n'y a rien à effrayer un enfant, mais moi je m'imaginais cette donc, tête, on peut dire, c'est une tête qui roule, donc comment est-ce qu'il roule dans la terre, dans les flaques d'eau, il doit avoir de terre plein les yeux, comment elle arrive à regarder le renard, comment il parle, il doit avoir de la terre plein la bouche. Et c'est ça qui me paraissait quand même cauchemardesque, cette histoire de la tête qui est obligée à rouler dans la boue, dans la terre, et le fait que le renard le mangeait à la fin, c'était pas très grave.
И поэтому, когда я использовала вот этих персонажей фольклорных в книге «Убежище», я, собственно, это и был мой главный прием. Я доводила до абсолюта все, что вот все сказочные мотивы. То есть, грубо говоря, если есть пряничный домик или молочная река и кисельный берег, я начинала думать о том, а как это летом вообще будет вот это молоко? Оно свернется, прокиснет. Потом кисельный берег, вот этот сладкий, на него налипнут мухи и комары, и мошки, да, и они не смогут оттуда вылезти. И я описывала это все именно так. То есть не вот эта сказочная радостная картинка, где кисельные берега и молочные реки, это что-то приятное, а вот то, где клубятся, жужжат мухи, например, над киселем, ну потому что объективно, но они, конечно, прилетят на кисель.
Donc c'était mon moyen d'expression, on peut dire, essentiel, ma technique essentielle dans ce livre, c'est que je poussais tous ces contes à l'extrême, c'est-à-dire que si par exemple il y a une image très jolie de la rivière de lait avec des rives de miel, moi je commençais à penser tout de suite, donc cette rivière en été, le lait bien sûr va tourner, les rives de miel attireront toutes les mouches, tous les moustiques du coin qui vont se prendre dans le miel, qui ne pourront pas en sortir. Et donc, si je décris cette rivière, c'est comme ça que je la décris. Je la décris avec des mouches qui sont dessus, parce que bien sûr, en réalité, si vous avez du miel, ça va attirer des mouches.
Il y a quelque chose que vous avez l'air d'aimer encore moins que le folklore russe, c'est le monde virtuel. Donc dans Le Vivant, qui est le premier roman qui est sorti en France chez vous, qui est plus facile que, plus, ouais, pas classique, mais oui, plus simple à aborder que Refuge 3-9, vous racontez un espèce de monde dystopique où tous les gens sont regroupés dans un organisme qui s'appelle Le Vivant, qui est une espèce de super Google, et où chacun ne meurt plus, mais régénéré. Est-ce que le monde virtuel vous fait peur à ce point, ou est-ce que c'est devenu aussi un peu une convention de la science-fiction que d'aller dénoncer le côté totalitaire de ce monde-là?
Страхи и ужасы в интернете, в виртуальном мире. Меня не пугает виртуальный мир в том плане, что я в нем сама довольно глубоко увязла и, в общем, сижу в соцсетях, пользуюсь там Гуглом, когда я что-то забыла. Вот. Тем не менее, ну, есть такое понятие, которое я люблю, есть такая фраза, которую я люблю говорить, когда мне спрашивают что-то похожее, что у писателя, который пишет антиутопию, задачи такие же, как у канарейки в шахте. Потому что раньше шахтеры брали с собой в шахту канарейку, потому что она тоньше, она чувствует всякие звуки на той частоте, на которой люди их не чувствуют, и если земля начинает как-то подрагивать, она начинает дико кричать, эта канарейка. То есть еще ничего не случилось, она уже вопит. И все выходили наружу, и таким образом как бы, ну, людей не заваливало в шахте.
Alors, je n'ai pas peur du monde virtuel, j'y vis moi-même, c'est-à-dire que je surfe beaucoup sur les réseaux sociaux, je regarde sur Google si j'ai oublié quelque chose. Mais quand on me pose ce genre de questions, je réponds toujours avec une citation qui me plaît beaucoup et qui dit que l'auteur d'une dystopie, sa mission, c'est la mission du canari dans la mine. Parce qu'avant, les mineurs emportaient des canaris dans les mines avec eux parce que le canari entendait des sons à une fréquence que donc l'oreille humaine ne pouvait pas capter. Et dès qu'il y avait donc dès que la terre commençait à trembler un peu, le canari commençait à crier, à piailler, même si rien n'était encore arrivé. Et c'est comme ça que les mineurs savaient que c'était le temps de sortir de la mine avant qu'il ne s'effondre.
И вот, и в том, что касается соцсетей, я выполнила тут именно такую функцию, потому что, да, сейчас это все, в общем-то, может быть, еще не так уж и опасно, но в целом, если представить себе то, что соцсети полностью изменили вообще функционирование, ну, как бы общение людей, если провести небольшую проекцию в будущее, то можно предположить, что мы получим такой результат, когда действительно все человечество, ну, как бы оно начнет, когда коммуникация изменится, и оно сольется в такой вот, типа, как коллективное насекомое, как муравейник.
Et donc ici, je me comporte un peu comme ce canari dans la mine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas, c'est tout, quelque chose de tout à fait normal, mais avec le temps, quand on voit à quel point donc Internet et les réseaux sociaux ont changé le format de notre communication, on peut s'imaginer que ce format changera encore plus et qu'on finira en un organisme uni donc qui s'apparenterait à une fourmilière.
On a toujours un peu tendance, donc le vivant est une dystopie, à considérer que toutes les dystopies venant de l'Est, surtout, sont des métaphores plus ou moins déguisées de l'Union soviétique. Vous êtes né à un an près, au moment où le mur de Berlin tombait. Est-ce que pour vous, pour votre génération, l'URSS est encore une référence ou ça fait partie d'un passé maintenant qui vous intéresse plus que comme une page d'histoire ?
Нет, конечно, ну, во-первых, я родилась все-таки еще в СССР и очень хорошо все помню. Во-вторых, я все-таки там читаю на эту тему, и, естественно, я читала все антиутопии, о которых вы говорите. Вот, нет, для меня это вполне актуальная тема, потому что меня от этого отделяет там просто половина поколения. И в живущем, да, я пишу о современном, как бы, мире, у меня проекция не в прошлое, а в будущее, но, конечно, я держу в голове этот опыт тоталитарного государства, потому что, ну, как бы, он самый яркий. То, что я описываю, это просто другой вариант тоталитарного государства, но даже там у меня есть отдельные черты, которые я именно взяла из Советского Союза.
Alors, bien sûr que ça reste une référence. Alors, je suis née quand même de l'époque de l'Union soviétique et je me souviens très bien de tout. Et j'ai lu, donc j'ai lu beaucoup sur l'Union soviétique, j'ai lu toutes les dystopies que vous avez mentionnées. Et effectivement, donc même si le livre, enfin, il est tourné vers le futur et pas vers le passé, il y a quand même des éléments donc de cette, enfin, de l'URSS. Il y a des éléments de mon expérience donc du pays totalitaire qui est pour moi l'expérience la plus vive, on peut dire. Et donc même dans ce livre, il y a certains éléments qui viennent de là.
On arrive malheureusement au terme de cette discussion. J'aimerais, avant qu'on se quitte, que vous nous racontiez donc la dernière aventure quasiment qui vous est arrivée. C'est-à-dire que là, actuellement, est en train d'être décerné le prix best-seller international, qui est un grand prix en Russie, pour lequel un de vos livres fait partie des candidats possibles. Donc d'ici une heure, vous devriez savoir si c'est vous ou si c'est pas vous. Mais surtout, ce livre a une histoire intéressante, puisque c'est un livre qui est votre premier livre de non-fiction, qui est un livre beaucoup plus autobiographique et surtout dont la sélection pour ce prix a suscité en Russie un scandale dont j'aimerais bien que vous nous parliez un peu.
Да, у меня есть ровно одна книга в жанре нон-фикшн. Эта книга основана на том, что случилось со мной. Она связана с очень неприятной такой, скажем так, и личной, и медицинской историей, когда я потеряла беременность на позднем сроке. Когда я попыталась найти литературу на эту тему в России, я поняла, что не существует ни одной книжки на эту тему, вообще ни одной. И решила, что мой долг написать такую книжку. Я ее написала, уделив очень большое внимание тому, насколько жестоко поступает в такой ситуации с женщиной медицинская система в России.
Alors effectivement, je n'ai qu'un livre de non-fiction et c'est un livre donc autobiographique et ça parle d'une histoire très triste qui m'est arrivée quand j'ai fait une fausse couche à un terme très avancé. Et quand j'ai voulu lire d'autres histoires dans ce genre, je n'en ai trouvé aucune. Et je me suis dit que c'était mon devoir de l'écrire et surtout le devoir de décrire la cruauté avec laquelle le système médical russe traite les femmes dans ma situation.
Я ее написала, она вышла, это как ни удивительно, это книжка, которая лучше всего продается из всего, что я написала, и эта книжка в какой-то момент попала в шорт-лист достаточно крупной российской премии под названием «Национальный бестселлер», что вызвало невероятный общественный скандал, там об этом писали в прессе, это обсуждалось в Фейсбуке, то есть я просто открываю ленту Фейсбука, и все про Анну Старобинец и книжку «Посмотри на него». Суть скандала сводилась к тому, что я не имею права с этой книжкой быть в шорт-листе этой премии, потому что это моя личная история, она трагичная, а настоящее горе, это фраза, которая повторялась постоянно, во-первых, настоящее горе должно быть молчаливо, во-вторых, нельзя выносить ссор из избы, это такая российская пословица, потому что этой книжкой я порочу и позорю свою страну и медицинскую систему в стране. Вот. И прямо сейчас в данный момент, примерно в данный момент, как раз выбирают победителя. Вот. Я не думаю, что это буду я, но я в итоге даже довольна тем, что возник такой скандал, потому что на книгу обратили еще больше внимания, и со мной даже связывались различные очень известные российские врачи, которые теперь, у многих лежит эта книга, они мне прямо об этом говорили, и многие из них стали наконец задумываться о том, что, может быть, женщине в таком положении не надо говорить фразы, типа, что ты плачешь, нового родишь, а надо как-то иначе себя с ней вести.
Et donc ce livre a été publié. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est mon livre le plus vendu pour aujourd'hui. Il a fait partie de la liste, de la shortlist, d'un des prix assez prestigieux de Russie qui s'appelle le best-seller national. Et c'est en ce moment qu'il y a eu, a éclaté un grand scandale. C'était partout dans les médias, sur Facebook. Il me suffisait d'ouvrir la page de Facebook pour voir que tout et partout parle d'Anna Starobinets et de son livre. Et on me disait que je n'avais pas le droit, que mon livre n'avait rien à faire sur cette liste des lauréats, des candidats pour devenir lauréat, parce que ce livre faisait honte à la Russie, il faisait honte au système médical russe, il est montré sous une lumière très négative. Il disait tout le temps que la tragédie, la vraie tragédie devait être silencieuse, qu'on ne devait pas laver, que son linge sale, il fallait le laver chez soi, etc., etc. Et donc aujourd'hui, ce prix est discerné. Je ne crois pas que je devienne lauréate, mais finalement, j'ai été contente de ce scandale parce qu'il a attiré encore plus d'attention à mon livre. et que j'ai eu donc des réactions de plusieurs médecins russes, les médecins qui ont lu mon livre, et qui finalement ont commencé à réfléchir et à se dire que peut-être on ne devait pas dire à une femme qui venait de perdre son enfant, arrête de pleurer, t'en feras bien un nouveau. Donc il faudrait peut-être réfléchir un peu et devenir un peu plus sensible.
Bah écoutez, on espère que malgré tout, vous l'aurez ce prix et que ce message sera porté encore plus et qu'on pourra lire en France Loukatim, je crois qu'il y a la traduction anglaise du titre russe, bientôt. Anna Starobinets, merci. Donc je rappelle vos trois livres traduits en France. Donc Je suis la reine, recueil de nouvelles qui s'est retrouvé chez Folio, Le Vivant qui est chez Mirobol et Refuge 3-9, donc qui est votre premier roman mais qui est le dernier traduit chez nous, qui est chez Agulo. Merci beaucoup et
merci
bonne
à
journée.
Vous.
Au revoir. Et merci pour cette traduction remarquable.